Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver. La fin de vie est revenue au cœur de l'actualité avec l'annonce d'un projet de loi ouvrant la porte à l'euthanasie et au suicide assisté. L'Église s'y oppose résolument, mais pour comprendre les enjeux de cette question, rien de tel qu'une figure de sagesse. La fête de Saint-Joseph le 19 mars nous en donne l'occasion car le père adoptif de Jésus est aussi le patron de la bonne mort. Dans notre monde déboussolé, Saint-Joseph, cet homme juste, peut-il nous apprendre le secret d'une vie réussie? Est-il un remède puissant et un protecteur face à la modernité bruyante et dispersée? En tout cas, l'audience de ce héros trop discret est grandissante auprès des hommes et des pères de famille. Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous.
Bonjour.
Les invités, donc pour parler de Saint-Joseph, bien entendu. Alors le frère Élie, vous êtes prêtre de la communauté La Famille Saint-Joseph. Il y a également Adrien Serret qui est médecin spécialiste des soins palliatifs. Et puis Timothée Bélanger, chef d'entreprise.
Voilà, et puis tout cela, c'est en partenariat avec l'Hebdo France Catholique. Tout de suite, les infos religieuses de la semaine, Somaya Labidi. Bonjour Somaya, on commence les infos avec vous par parler de la fin de vie justement avec ce projet de loi et l'Église qui marque son opposition.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Absolument, Emmanuel Macron qui ouvre la porte à l'aide à mourir sans employer les mots d'euthanasie ou de suicide assisté. L'Église catholique, vous l'avez dit, Aymeric parle d'une tromperie et réaffirme son opposition contre l'évolution de la loi sur la fin de vie. Les explications d'Éloi Rochebrune.
L'Église de France vend debout contre le projet de loi du gouvernement sur une aide à mourir. C'est précisément cette expression qui a suscité la critique. L'archevêque de Tours, Mgr Vincent Jordy, parle d'une manipulation.
Même le mot suicide assisté, le mot euthanasie n'est pas dans le projet, alors que c'est ce qui est décrit. Et puis surtout le mot fraternité, auquel on fait dire ce qui n'est pas. La fraternité, c'est accompagner les personnes, c'est surtout accompagner les plus fragiles, les plus faibles. Il y a vraiment, oui, quelque chose qui s'apparente à une forme de manipulation de la langue, mais enfin qui est courante aujourd'hui dans la société, où on change le sens des mots.
Beaucoup de soignants se sont aussi dressés contre une future loi qui pourrait permettre à la médecine d'administrer une substance létale. C'est le cas de Jeanne, infirmière en soins palliatifs.
Ce métier n'est pas de donner la mort. En aucun cas, j'ai choisi d'être infirmière et les soignants ont choisi les métiers du soin pour donner la mort. Parce qu'au quotidien, on est témoin que les patients surtout ne nous demandent pas ça. Ils ne nous demandent pas à mourir. En revanche, ils nous demandent à être soulagés, à être accompagnés, à être écoutés.
Le projet de loi sera présenté en avril en Conseil des ministres et débattu à l'Assemblée nationale à partir du mois de mai prochain.
Dans le reste de l'actualité, le pape François appelle à négocier sur l'Ukraine, déclaration qui a brouillé les relations du Saint-Siège avec Kiev, mais qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Vatican pour ce spécialiste des relations internationales.
Le Concile pontifical a toujours été favorable à des négociations et a toujours contribué à être un facteur de négociation, à couler les bons offices. Dès le début d'ailleurs de la guerre en Ukraine, ça a été donné. Donc il a un souci premier qui est celui des populations civiles. Et pour lui, la question des États, la question des frontières passe après les populations civiles. Donc le plus important, c'est la fin de la guerre pour sauver des vies civiles et militaires et ensuite aborder des négociations entre États.
Retour en France avec cette vague de profanation touchant des cimetières, des églises et des calvaires. Illustration en Dordogne avec ce sujet signé Adrien Spiteri.
58 tombes de ce cimetière de Dordogne profanées par des tags islamistes. Des inscriptions appelant à se soumettre à Allah ou encore le mot gouir inscrit sur cette tombe qui désigne une personne blanche, occidentale et non musulmane. Dans ce village de 240 habitants, c'est le choc. Alexandre Caillet de l'association SOS Calvaire s'est directement rendu sur place.
Les gens venaient voir les tombes de leurs aïeux, de leurs anciens, qui étaient a priori voués au repos éternel et finalement qui sont dérangés. En fait, ce qui est important, c'est le symbole. Là, on parle du monument aux morts, donc des gens qui se sont battus pour que la France soit libre, pour que la France reste la France. Les gens sont vraiment outrés, choqués, traumatisés certains. Donc nous, notre rôle là, c'est vraiment d'apporter de l'espoir là-dedans et de dire que les monuments qui ont été dégradés vont être restaurés.
À 300 mètres du cimetière, les portes de cette église ont également été taguées avec l'inscription « Ramadan Moubarak ». La préfecture de la Dordogne a immédiatement réagi.
Le préfet condamne fermement le nouvel acte de vandalisme commis au cimetière de Clermont-d'Exideuil. Une enquête de gendarmerie se poursuit sous l'autorité du parquet de Périgueux qui a ouvert une enquête pour dégradations aggravées.
Le mois dernier, 5 calvaires avaient été tagués à quelques kilomètres du cimetière.
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont à Bordeaux ce week-end pour leur assise nationale. Au cœur des réflexions cette année, le travail, comme l'explique le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
On est convaincu que le travail, ça permet de donner une dignité à la personne. C'est ce qui lui donne une raison d'être, une raison de déployer ses talents et mettre ses talents au service d'un collectif. En fait, la dignité, on la trouve quand on est co-créateur, quand on participe à la création de quelque chose et quand on a sa place dans un système, dans un environnement. C'est ça la dignité de la personne, être utile, quel que soit le niveau.
Direction la Catalogne pour terminer ce journal. Alors que la sécheresse frappe sévèrement la région, des catholiques ont organisé des processions pour demander le retour de la pluie et leurs prières ont été exaucées. Reportage à Barcelone d'Éloi Rochebrune.
La croix sort de la basilique Santa Maria, portée par des membres de l'archiconfrérie du sang du Christ. Une procession pour demander la pluie n'avait pas eu lieu depuis le XXe siècle.
Ce qui est curieux, c'est qu'il a commencé à pleuvoir juste au moment où nous avons commencé la 9e prière et au moment où nous l'avons terminée. Il semble que c'est à ce moment-là que la plus grosse averse s'est abattue sur la ville de Barcelone et sur le reste de la Catalogne.
Des pluies miraculeuses qui ont failli faire annuler la procession. Dans les rues de Barcelone, les fidèles portent des cierges sous le regard étonné des touristes.
Cela semble donner de bons résultats car ils ont prié pour la pluie pendant une semaine et il a commencé à pleuvoir ces jours-ci. Et aujourd'hui est un jour de pluie.
De l'autre côté de la frontière à Perpignan, agriculteurs et paroissiens ont aussi participé à une procession pour que la pluie tombe. La Catalogne est touchée cette année encore par une forte sécheresse.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Émeric.
Merci Somaya et nous commençons aussi par l'actualité dans Enquête d'Esprit puisque nous serons accompagnés par la figure de Saint-Joseph et que Saint-Joseph est le patron de la bonne mort. Que peut-il nous dire aujourd'hui sur ce projet de loi fin de vie? Justement parce que dans une interview à La Croix et à Libération, Emmanuel Macron a affirmé son intention de regarder la mort en face et il a défini son futur texte comme une aide à mourir, comme une loi de fraternité. La réaction de l'Église, on l'a entendu, notamment Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques. Voici ce qu'il dit. Appeler une loi de fraternité un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, c'est une tromperie. Même réaction du côté de certains politiques, comme Ségolène Royal. Adrien Seret, première question pour vous dans ce futur projet de loi. Et je rappelle que vous êtes médecin spécialisé en soins palliatifs. Dans ce futur projet de loi, donc Emmanuel Macron intègre à la fois les soins palliatifs et l'aide à mourir. C'est une cohabitation paradoxale ?
Oui, tout à fait. Bon, déjà, pour revenir sur le terme de fraternité, c'est un euphémisme. C'est un procédé rhétorique qui consiste à chercher à faire passer un message un peu délicat en utilisant une expression un peu atténuée. Donc on comprend pourquoi Emmanuel Macron préfère parler de loi de fraternité et non pas de loi euthanasie. Ça passe mieux dans les consciences, mais on peut noter que c'est un biais d'expression qui vient biaiser les consciences et la compréhension de toute la réflexion sous-jacente et la problématique. Donc, je suis en partie d'accord avec Mgr de Moulin-Beaufort sur cette tromperie. On ne peut pas appeler cette loi euthanasie, appelons un chat, on ne peut pas l'appeler loi de fraternité. Il faut revenir à la définition de la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité ? C'est un lien relationnel, un lien d'entraide et d'amour entre deux frères, fraternité. Et donc, c'est un idéal moral, la fraternité, qui vient unir, rendre solidaire tout un peuple et toute une société. C'est un des fondamentaux de la vie en communauté. Donc, est-ce que le président Macron peut utiliser ce terme ? Je ne pense pas, sur une question, sur une loi qui cherche à légaliser un acte qui vient, qui permet de donner la mort. Utilisons les bons termes, l'euthanasie, c'est donner la mort, et ce n'est pas un acte fraternel d'entraide et de solidarité. C'est un frère qui vient donner la mort à un autre frère en humanité. Donc, je ne pense pas...
Il y a contradiction dans les termes. Hein,
c'est exactement. Ce et c'est, même, philosophiquement et anthropologiquement, c'est un non-sens. Cette loi ne peut pas être considérée comme une loi de fraternité. Ce sont deux mouvements philosophiques différents. Et donc, pour revenir à votre question sur la cohabitation dans le projet de loi, la cohabitation du texte sur les soins palliatifs et du texte sur l'euthanasie.
Parce que c'était un débat, à un moment donné. Est-ce qu'il y aura deux projets de loi ? Est-ce qu'il n'y en aura qu'un seul ? Finalement, le choix a été fait de les regrouper.
Et on a été nombreux à demander au président Macron et à Agnès Firmin-Lebaudeau, qui était l'ancienne ministre chargée de l'organisation territoriale et de la rédaction du pré-projet de loi l'année dernière. Donc, on a été nombreux, un collectif de 800 000 soignants, avec les soins palliatifs, les gériatres, les anesthésistes réanimateurs, les médecins coordonnateurs d'EHPAD, 800 000 soignants, a demandé au président de séparer ces deux textes pour deux raisons. Première raison, parce que le premier texte de loi sur les soins palliatifs fait l'unanimité, fait consensus, à gauche, à droite, au nord, au sud, tout le monde est d'accord sur le constat qu'il faut développer massivement les soins palliatifs, les soins d'accompagnement, le soulagement, sur les symptômes d'inconfort, la douleur, la prise en charge globale, on va peut-être y revenir, sur la démarche palliative pour accompagner le processus naturel jusqu'à la mort, naturelle. Et le risque, c'est que si on fusionne ces deux textes, le développement des soins palliatifs va prendre du retard.
De l'action politique.
Risque d'être parent pauvre et de prendre du retard dans le déploiement. On sait bien que la question de l'euthanasie est une question délicate qui va prendre beaucoup de temps, plus d'un an peut-être. Et pendant ce temps, des personnes, des citoyens français vont continuer à mourir dans une impréparation, dans des douleurs, dans des symptômes. Aujourd'hui, retenez juste ce chiffre, 500 Français meurent dans des situations complexes. Aujourd'hui, 500 Français par jour meurent dans des douleurs parce qu'ils n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité. L'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et la Cour des Comptes, en 2019 et en 2022, on estime que la couverture en soins palliatifs aujourd'hui n'est que de 50%, moins de 50%. On a un énorme travail de développement des soins palliatifs, et le risque, c'est de prendre du retard.
Je précise justement que vous êtes médecin généraliste et spécialisé dans les soins palliatifs. Vous travaillez au sein de plusieurs établissements, l'hospitalisation à domicile en région Centre-Val-de-Loire. Vous êtes aussi coordinateur en EHPAD et puis médecin dans une association de bénévoles en soins palliatifs. Avec nous également, le frère Élie Héroulé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes prêtre de la famille de Saint-Joseph, une communauté de moines et de moniales fondée en 1990. Vous êtes aussi spécialiste des pères de l'Église. Et le fondateur de votre communauté, le père Joseph-Marie Verlinde, vient de publier un livre synthèse justement sur ce que dit l'Église, sur la figure de Saint-Joseph dont nous allons parler. Ça s'appelle Joseph de Nazareth, publié chez Arthège. Et puis également Timothée Bélanger, chef d'entreprise, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Marc.
Vous êtes directeur général de Caillebotti Diamond. C'est une entreprise de métallurgie dans la région de Normandie, près de Lisieux. Vous êtes président du groupement des industriels lexoviens, membre des Chevaliers de Colomb et organisateur d'un pèlerinage de pères de famille à Lisieux le 22 mars prochain notamment. Vous nous en parlerez. Frère Élie, j'avais envie de vous demander, puisque effectivement c'est la figure de Saint-Joseph qui est fêtée le 19 mars, qui va nous guider un peu à travers cette réflexion sur la fin de vie, mais plus largement sur qu'est-ce qu'une vie réussie. Saint-Joseph est le patron de la bonne mort. Pour quelle raison ?
Alors, c'est une tradition dans l'Église catholique qui remonte déjà à quelques siècles. La bonne mort, voilà, elle doit être envisagée, disons, sous trois aspects qui respectent l'anthropologie, disons, d'un point de vue chrétien, la dimension somatique, psychologique et spirituelle. Donc, la dynamique de la bonne mort chez Saint-Joseph, elle est d'abord spirituelle, évidemment, d'un point de vue pour un croyant, évidemment, puisqu'au fond, on pourrait dire qu'il est mort entouré de Jésus et de son épouse, de la Vierge Marie. Et en ce sens-là, on pourrait dire que Saint-Joseph a fait son ultime Pâque, son ultime passage, en allant au fond de Dieu à Dieu, en allant du Fils vers le Père, dans le souffle d'amour de l'Esprit-Saint, d'une certaine manière. Donc, il a vécu, au fond, une mort, d'une certaine manière, qui était accompagnée par la Trinité tout entière. Donc ça, évidemment, pour un croyant qui croit à la vie éternelle et qui vise la communion d'amour et de vie avec Dieu, il y a quelque chose ici d'exemplaire. Du point de vue psychologique, disons du point de vue humain plus largement, je dirais que, nous avons ici le modèle d'une mort, d'une certaine manière, en toute fraternité. C'est-à-dire avec des gens autour de soi, des proches qui prennent soin de vous. Et vous connaissez bien dans l'évangile, de quel homme, qui est le prochain, qui est mon prochain ? Et Jésus retourne la question, et de qui me suis-je fait le prochain ? C'est le renversement de la question après la parabole du bon samaritain. Et au fond, la vraie question, c'est de se faire le prochain du plus fragile, du plus vulnérable. Et quoi de plus
et du malade en fin de vie, donc, effectivement, et pour raccrocher à notre actualité. Véronique Jacquier.
Oui, frère Élie, est-ce que ce n'est pas aussi parce que Saint-Joseph est la figure de l'homme qui a fait toute sa vie la volonté de Dieu, et donc au moment du grand passage, passage ultime, il sait aussi s'abandonner à Dieu. C'est pas ça ?
Absolument. Ça, on reprend d'un point de vue spirituel, mais on pourrait l'étendre aussi à toute la dimension humaine. Saint-Joseph est un modèle de foi. Il est présenté comme un juste dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire au sens biblique, un homme ajusté à Dieu. Donc il n'a pas eu de plus grand désir tout au long de sa vie que de communier à la volonté du Père. Et donc communier à la volonté du Père dans un acte d'obéissance, ce n'est pas du tout servile, c'est un abandon libre et confiant. Et au fond, le terme de sa vie, on pourrait dire, pour moi, évoque un passage de l'évangile où « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as su t'abandonner toute la vie entre les mains du Père. Maintenant, viens et demeure pleinement dans les bras de celui que tu as voulu servir.
» Adrien Seret, comment est-ce qu'on peut raccrocher cette mort de Saint-Joseph, donc la bonne mort idéale, de l'actualité et de ce qui manque peut-être justement dans notre approche de la mort aujourd'hui ?
Oui. Je vais vous répondre, et pour répondre à la question de Véronique et pour compléter. En fait, on meurt comme on a vécu. C'est cette question de l'habitus, du continuum qu'il peut y avoir entre la vie, la manière de vivre et la manière de mourir. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec Saint-Joseph, comme vous l'avez si bien fait. Voilà. Saint-Joseph a vécu d'une telle manière qu'il est probablement mort de la même manière. Entouré et soulagé. Il a entouré Jésus et Marie de sa présence silencieuse, de sa présence protectrice.
Mais Véronique Jacquier.
Vous, c'est ce que vous constatez dans les soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on meurt comme on a vécu.
Tout à fait.
Il y a un moment de vérité.
Oui, oui. On constate qu'il est difficile de changer sur les derniers jours. Il est difficile il est difficile d'apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Il est difficile à une personne en fin de vie à changer de comportement et à entrer dans cette acceptation. Mais c'est possible. Mais on voit bien qu'il y a un continuum, qu'il faut travailler dès aujourd'hui, en fait, à se préparer à bien mourir.
Mais ça veut dire aussi prendre en compte la dimension, surnaturelle ou spirituelle de la personne humaine, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement.
Tout à fait, c'est le problème, pour compléter. Une bonne mort, c'est quoi ? Une bonne mort, c'est une préparation à mourir. L'instant de la mort, finalement, peu importe, c'est un instantané qui ne dure qu'un instant. Et c'est pas l'instant de la mort qui va permettre d'être évalué. C'est la préparation, c'est tout ce qui se vit en amont. Donc il y a une préparation sur laquelle Voilà, il faut travailler sur les trois plans. Les trois plans de l'être, les fameuses trois zones de l'être, le physique, le psychologique et le spirituel. Une bonne mort, c'est un soulagement sur le corps physique, un soulagement des douleurs physiques, mais c'est également un accompagnement sur le psychisme. C'est un psychisme qui entre dans l'acceptation. Il y a cinq phases qui ont été décrites. Peut-être que vous connaissez Elisabeth Kübler-Ross, une psychiatre suisse-américaine, qui a décrit les phases de cheminement psychologique à l'approche de la mort. C'est la phase du déni, puis de la colère, du marchandage, de la dépression et de l'acceptation. Il y a tout un processus psychologique, un cheminement. Et bien sûr, une bonne mort, c'est une ouverture spirituelle. C'est l'esprit qui se prépare à une éventuelle rencontre. C'est ce qu'on appelle le cheminement spirituel en fin de vie, le cheminement de la vie de l'esprit. Et quand ces trois zones sont accompagnées, le physique, le psychologique et le spirituel, on peut considérer, certains considèrent qu'on est dans cette fameuse bonne mort.
C'est la bonne mort.
C'est ce qu'on constate sur le terrain.
Timothée Bélanger, vous êtes chef d'entreprise, je le rappelle, donc a priori un peu éloigné de ces problématiques. Néanmoins, comment ça vous fait réagir ?
Alors, ça me fait réagir. Je crois qu'il y a peut-être deux moments essentiels pour des vivants. Le maintenant et l'heure de notre mort. C'est la prière à Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc c'est un moment important qu'il faut préparer, qu'il faut accompagner. Et à Lisieux, ce qui m'évoque spontanément, c'est qu'il y a une histoire qui est très belle dans la foi, qui est l'histoire de Pranzini. Pranzini, nous sommes en 1887, et est un assassin monstrueux. C'est quelqu'un qui a fait un triple féminicide.
Une boucherie.
Dont une fillette de 12 ans. Et vous avez une jeune fille, Thérèse Martin, qui a passé tout l'été.
Qui deviendra Thérèse de Lisieux. Hein.
Qui devient Sainte Thérèse de Lisieux, qui a prié pour lui, qui a fait des sacrifices pour lui, et tous les jours. Et la question, pauvre pécheur, qui nous interpelle, c'est le moment de notre mort. Est-ce que Pranzini, par exemple, peut avoir une bonne mort ? Est-ce que Pranzini doit avoir une bonne mort ? Et au moment, avant d'être décapité, puisque l'heure de sa mort, lui, tout le monde le connaissait, il a embrassé la croix. Et ce qui est très beau, c'est qu'avec l'intercession, certainement la prière, mais c'est surtout la confiance infinie en la miséricorde de Dieu, de Sainte Thérèse, qui, la grâce de Dieu, a permis certainement que Pranzini se réconcilie avec Dieu et avec lui-même. Et on revient à ce que vous dites. Et peut-être pas nécessairement une vie réussie, parce que des vies réussies, on trébuche souvent. Mais c'est un exemple d'espérance, je crois.
Voilà, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve tout de suite après pour poursuivre cette réflexion autour de la question d'une vie réussie, effectivement, et d'une fin de vie aussi, mais plus largement, en quoi est-ce que Saint-Joseph est un saint qui est fêté le 19 mars, est un saint pour le troisième millénaire ? Pourquoi est-ce que son succès est grandissant, notamment auprès des hommes et des pères de famille ? Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons notamment de la figure de Saint-Joseph. En quoi est-ce qu'il peut inspirer un modèle ? Est-il un modèle de vie réussi en 2024, notamment auprès des hommes, puisque chaque année, environ 10 000 d'entre eux se lancent sur les routes de France à la suite de Saint-Joseph, au cours de 80 pèlerinages environ. Hier, notamment, c'était la marche de Saint-Joseph à Paris, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et nous parlons de tout cela avec nos invités, le frère Élie Héroulé, qui est prêtre et religieux de la famille de Saint-Joseph, avec Adrien Seret, qui est médecin généraliste et spécialisé dans les soins palliatifs, puisque Saint-Joseph est aussi le patron de la bonne mort, et puis Timothée Bélanger, qui est chef d'entreprise, et vous organisez justement une marche autour de la figure de Saint-Joseph le 22 mars prochain, dans la nuit, hein, ça commence à 22h, à Lisieux, votre région d'origine. Alors auparavant, Véronique, on va quand même se demander qui est Saint-Joseph, parce qu'effectivement, c'est un peu le grand silencieux de l'Évangile. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il y a quand même quelques indices.
Alors, il est présenté comme un homme juste, c'est-à-dire, on l'a déjà évoqué, comme un homme ajusté à la volonté de Dieu, et ce, dans un évangile, celui de Matthieu. Il répond aussi à sa mission d'époux de la Vierge Marie et de père adoptif de Jésus, donc. Hein. Mais cette mission est faite d'abord d'inattendu, parce que l'Évangile raconte que Marie est enceinte sous l'action de l'Esprit-Saint, et au départ c'est complètement incompréhensible pour Joseph, il faut quand même dire les choses, et donc il décide de répudier en secret sa fiancée. Mais un ange lui apparaît en songe pour lui dire de garder et de protéger la mère et l'enfant à qui il devra donner le nom de Jésus. Cette mission est aussi faite d'épreuves, de trois grandes épreuves pour Joseph, puisque l'Évangile relate trois situations difficiles. Bien entendu, la marche vers Bethléem quand il s'agit pour lui d'aller se faire recenser. Marie est enceinte, ils ne sont pas accueillis et le petit Jésus va naître dans une étable. C'est la fameuse nuit de Noël. On imagine quand même que pour de jeunes parents, ça n'a pas été simple du tout. Il y a aussi la fuite en Égypte, puisque Joseph emmène Marie et Jésus, là encore, à la suite d'un songe où un ange lui apparaît pour lui commander cette action. Donc il emmène Marie et Jésus pour les protéger de la folie meurtrière d'Hérode. Et donc ils vont vivre une vie de réfugiés pendant quelques années en Égypte. Et puis la troisième situation, qui n'est quand même pas simple, c'est la disparition pendant trois jours de Jésus au temple de Jérusalem quand il a 12 ans. Et l'évangile nous raconte que Joseph est angoissé au même titre que la Vierge Marie. Imaginez des parents qui cherchent un enfant de 12 ans comme ça pendant trois jours. Pour le reste, on sait qu'il est présenté comme vivant discrètement à Nazareth. Les évangiles rapportent que Jésus est connu comme, est connu comme le fils du charpentier, ce qui signifie que Joseph a été identifié durablement de cette façon. En tout cas, pas un mot ne sort de sa bouche. Dans l'évangile, il n'y a pas non plus de dialogue relaté avec Jésus. Dernière précision très importante, il est présenté comme un charpentier, mais sa lignée est royale. Il descend du roi David. L'ange, quand il lui parle d'ailleurs, lui parle en lui disant « tu es fils de David ». Et comme il est aussi de la tribu de Juda, il descend aussi d'Abraham, ce qui signifie qu'en fait, à travers sa lignée, Joseph, c'est pas n'importe qui. Il est simple, il est timide, mais il récapitule à lui seul, finalement, toute l'histoire d'Israël.
Merci Véronique. Est-il si simple et timide que cela? On va en parler justement. Mais auparavant, une précision, frère Élie, sur ce qui vient d'être dit. Lorsque effectivement Joseph apprend que sa future épouse, la Vierge Marie, est enceinte, il songe à la répudier. Ça a été diversement interprété au cours de l'histoire. Comment faut-il le comprendre? Est-ce que c'est une réaction de rejet ou au contraire autre chose?
Alors, il y a eu beaucoup d'études assez récentes d'ailleurs sur ce passage-là. Pour interpréter non pas la répudiation, mais la répudiation en secret. Ce qui est différent, parce que la répudiation en secret, donc c'était l'homme qui prenait sur lui l'opprobre qui devait retomber normalement
vous
sur
avez l'épouse, du candidaton.
Considéré comme adultère. Donc ça veut dire que déjà là, il y a une nuance. En fait, pour le dire de façon rapide et synthétique, de fait, Joseph se pose une question, Joseph doute. Mais la question est, doute-t-il de Marie?
Ce qui serait logique d'un point de vue humain.
D'un point de vue humain, ou doute-t-il d'autre chose? Et vous avez, je prends cet exemple, un auteur du 4e siècle. Donc vous voyez, on remonte loin chez les pères de l'Église, qui s'appelle donc Éphrem de Nisibe, donc un syriaque, un père syriaque, qui dit, mais il a cet argument, dit, mais enfin, Joseph avait devant lui la Vierge Marie. Comment est-ce que cette femme pouvait-elle laisser prise au doute sur sa fidélité à son égard? Voilà. Alors après, on peut dire bah, c'était Saint-Joseph. Mais ceci étant, c'est un vrai argument à prendre en compte. Parce que pour douter de quelqu'un, il faut aussi que la personne puisse laisser peut-être prise au doute. Et là, il disait... voilà.
C'est la femme parfaite.
C'était une femme parfaite. Alors le dogme de l'Immaculée Conception n'était pas encore proclamé, bien sûr. Mais... il y avait quelque chose de cet ordre-là qui s'exprimait à travers une théologie mariale et un regard théologique porté sur la Vierge Marie. Ensuite, d'autres auteurs plus récents, je pense à un exégète, le père Ignace de la Poterie ou le cardinal Jean Danielou, ont développé cette idée. Et quand on regarde le texte et qu'on étudie bien le grec, donc, puisque l'évangile de Matthieu a été écrit en grec, traduit ensuite en latin par Saint Jérôme, vous savez, voilà, donc Joseph décide de la répudier en secret, et puis l'apparition de l'ange à son égard, il dit « ne crains pas de prendre chez toi ton épouse », et la plupart du temps on traduit en français « car l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit-Saint ». Autrement dit, ça laisserait sous-entendre « tu n'as pas compris », moi, je viens t'expliquer, donc ne doute pas d'elle, tu peux la prendre comme épouse. En fait, ici, la conjonction de coordination en grec peut être traduite plus ou moins différemment. Et en réalité, ces exégètes ont montré qu'il conviendrait mieux de la traduire par « en effet ». Si bien que du coup, ça change le sens. C'est « ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse ». En effet, l'enfant qu'elle porte en elle vient bien de l'Esprit-Saint.
Et donc de Dieu.
Et donc de Dieu. Donc en effet, elle vient bien. Donc autrement dit, sous-entendu, tu as bien intuitionné ce qui est en train de s'opérer chez ton épouse et ne crains pas de la prendre chez toi.
Donc c'est la confiance, en fait, qui a caractérisé l'attitude de Joseph à ce moment-là.
Confiance en Marie, mais peut-être, et la question pour lui, c'est de dire, mais alors, et pourtant il la répudie en secret, pourquoi il ne la garde pas comme son épouse et la mère de l'enfant Dieu. Et là, c'est intéressant, et c'est un grand signe de l'humilité de Saint-Joseph. C'est que l'interprétation, une des interprétations, et le père Verlaine la développe dans son ouvrage, mais d'autres auteurs, hein, il n'est pas le seul, c'est de dire, mais en fait, Joseph ne s'est peut-être pas senti à la hauteur.
Il s'est effacé de cette devant mission.
Il s'est effacé devant Dieu et devant le mystère que cette femme portait en elle, le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Et je trouve ça, je trouve cela fantastique, parce que ça dit quelque chose d'énorme sur l'humilité de Saint Joseph. Et en ce sens-là, déjà, pour moi, il est déjà père. Pourquoi ? Dans la tradition...
Alors attendez, avant de parler de la paternité, si vous permettez, je voudrais poser la question à Timothée Bélanger, qui organise des pèlerinages de pères de famille. Comment cet homme, Saint-Joseph, effacé, timide, avec effectivement une confiance en Dieu, vous venez de nous le dire, inspire-t-il les hommes de 2024 aujourd'hui et les pères de famille, puisque vous êtes organisateur de pèlerinages ?
Oui, c'est vraiment certainement quelque chose qui est
un paradoxe.
Un paradoxe et peut-être une facette méconnue de Saint-Joseph. Et c'est là où les laïcs ont peut-être un témoignage, parce que si depuis des années, parfois des décennies, sur les chemins de Cotignac, de Vézelay, vous avez des milliers d'hommes en France qui marchent ensemble, sous le patronage de Saint-Joseph, avec le chapelet, et puis des petites routes... Des
10 000 voies, personnes, hein, je le rappelais tout à l'heure.
10 000 personnes qui est croissant. Et c'est peut-être parce que Saint-Joseph, à Nazareth, ça on le sait pas, mais c'est une intuition certainement avérée, et était un... Comment dire, on pourrait dire un super bon gars, on pourrait dire vraiment, et qui devait fédérer les hommes. Il y a cette dimension fraternelle qui répond par ailleurs à une attente forte. Aujourd'hui, vous avez des hommes catholiques qui ont la joie à se retrouver, qui ont besoin de marcher ensemble, qui ont besoin de suer ensemble. Et il y a cette attente, et Saint-Joseph rassemble. Saint-Joseph provoque cette fraternité, et c'est un aspect comme d'autres. Qui est assez nouveau, puisque dans l'histoire de l'Église, Saint-Joseph s'est révélé fin du XIXe siècle, et qui monte en puissance.
Alors, il y a aussi une interrogation sur la manière de représenter Saint-Joseph, puisque, effectivement, on a eu l'habitude, dans les premiers siècles de l'Église, de le présenter plutôt sous la forme d'un vieillard avec une barbe, fatigué, et puis ensuite des évolutions sur, justement, un Saint-Joseph plutôt jeune. Qu'en est-il, frère Élie, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on considère Saint-Joseph, on parlait de sa mort tout à l'heure, est-ce qu'il est mort jeune, justement ?
Alors, la tradition de représenter Saint-Joseph, disons, comme un ancien, voire parfois comme un vieillard, elle vient, en fait, d'un aspect principal. C'était quelque part, en le représentant ainsi, c'était de protéger, d'une certaine manière, la virginité de Marie, qui a été quelque chose qui a été entendu par l'Église et par les théologiens dès le IIe siècle. Irénée de Lyon, par exemple, en parle très très bien et développe cette théologie-là de la virginité de Marie. Donc, on considérait que la virginité de Marie était moins en danger avec un ancien, voire un vieillard, qu'avec un jeune homme. Il y a aussi cette tradition, elle vient par des écrits, ce qu'on appelle les écrits apocryphes, donc des écrits, notamment le protévangile de Jacques ou l'histoire de Joseph, qui n'ont pas été reconnus par l'Église, donc par la communauté chrétienne, comme des écrits inspirés de l'Esprit-Saint. Donc vous avez l'histoire de Joseph, qu'il représente en ce sens, comme un vieillard. Maintenant, si vous lisez le Talmud, donc Marie et Joseph étaient juifs. Si on lit le Talmud, normalement, un homme en âge de se marier a grosso modo entre 20 et 25 ans. Il doit être en capacité de subvenir aux besoins de son épouse, de ses enfants. Et donc la tradition de voir Saint-Joseph comme un jeune homme de son âge, Marie étant un peu plus jeune, mais ce qui était traditionnellement entendu était clair. Notez aussi que dans les écrits juifs, le Talmud aussi, on a du mal à accepter qu'un homme ancien épouse une femme trop jeune, c'est-à-dire qu'avec un trop grand écart d'âge.
Donc dans la tradition juive, en fait, c'était pas imaginable que
dans la tradition juive,
soit très âgé. Quoi.
Et si on prend d'un point de vue purement historico-critique les textes, il y a quand même davantage de chances que Joseph ait correspondu à ce qui se vivait dans la tradition juive que, l'imaginaire que l'on a pu projeter sur lui ensuite.
Adrien Serret, revenons à la mort de Saint-Joseph, et notamment, on disait que c'est un homme silencieux. Comment le silence de cette mort, puisqu'effectivement, on n'en sait rien, en fait, l'Écriture aujourd'hui, les Saintes Écritures ne se sont pas prononcées là-dessus. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer, vous, dans votre pratique des soins palliatifs ?
La question du silence et de la présence silencieuse, est un des fondamentaux de la démarche palliative. Ça c'est certain. Donc on peut faire ce parallèle. On peut faire ce parallèle entre la belle présence silencieuse de Saint Joseph aux côtés de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie, et le parallèle avec l'accompagnement à déployer au chevet d'un patient. Où les mots ne suffisent pas toujours. Il faut savoir que en toute fin de vie, quand on s'apprête à mourir, il y a tout un processus d'intériorisation de la personne. La personne qui se prépare à mourir, physiologiquement, va avoir du mal à émettre des sons, va s'intérioriser, non pas se recroqueviller, mais s'intérioriser sur son être profond. Et on va passer, enfin, les personnes sur le terrain, on le voit bien, hein, les personnes en fin de vie passent de savoir-faire au savoir-être. Et on essaye, nous, dans la formation aux soins palliatifs, dans la formation qu'on donne aux bénévoles d'accompagnement aux soins palliatifs, aux internes en médecine, aux infirmières, de leur apprendre à ce savoir-être avec la personne. Ce savoir-être qui se déploie souvent sur trois thématiques, hein, l'écoute active. Et surtout la présence silencieuse. Comment cheminer dans l'acceptation de ce silence qui parfois
ça passe par des regards, ça passe par des gestes.
Exactement, c'est un regard, des gestes, un sourire. Tout passe par le regard, ça c'est vrai. Et la personne qui se meurt va indubitablement rentrer dans ce silence, un peu parfois malgré lui. Donc il était nécessaire de travailler
comment l'accompagner à
l'accompagnement de ce silence.
Véronique.
C'est pour ça sans doute qu'il ne faut pas rater ce moment, parce que c'est aussi une heure de vérité, parce que ça requiert une qualité de présence. C'est ça, de la part des soignants d'ailleurs. Vous faites un métier qui est absolument merveilleux, magnifique en ce sens. Et Saint Joseph est le modèle de la qualité de la présence, me semble-t-il, non ?
Oui, tout à fait. L'interprétation théologique de la présence silencieuse de Saint Joseph, on peut la comprendre aussi de cette manière. C'est le Père qui se retire pour laisser la place au Fils. Et le rapprochement qu'on peut faire entre cette posture silencieuse de Saint Joseph et de la fin de vie, c'est justement c'est un des fondements de la démarche de soins palliatifs. Et cette démarche, elle s'ancre dans le respect du silence, comme j'ai dit, l'acceptation de l'être et qui se fragilise en fin de vie et qui, parfois, perd la capacité de parler.
Alors, ça nous amène aussi à élargir la problématique à l'ensemble du travail, hein, que ce soit effectivement dans la médecine, en soins palliatifs, ou également dans le monde de l'entreprise. Timothée Bélanger, vous êtes chef d'entreprise dans la métallurgie, et vous avez la particularité d'avoir installé une statue de Saint-Joseph dans votre bureau, au vu et au su de tout le monde, ce qui, quand même, dans un pays de laïcité à la française, est quand même à noter. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela, et est-ce que ça veut dire que c'est une manière aussi de peut-être de mettre Dieu au cœur de votre travail via Saint-Joseph ?
Oui, alors là, cette très belle statue de Saint-Joseph a été faite par un collaborateur de l'entreprise, M. Julien Bozen, à partir des chutes d'acier, parce qu'on travaille dans la métallurgie, de laiton, et aussi pour comme un clin d'œil, la silhouette de Saint-Joseph a été dessinée avec un crayon de charpentier. Voilà, bon, je glisse ça. Le premier point, alors deux remarques sur ce que vous venez de vous dire, enfin sur l'actualité, sur la laïcité. Il se trouve que Saint Joseph, cette statue est très discrète. Il n'y a pas de prosélytisme. Ça appelle. Elle est comme silencieuse. Pourtant, elle fait un mètre. Peu de personnes réagissent.
Mais elle est là quand même.
Elle est là. Par contre, c'est souvent des étrangers. Ça a été l'objet. On évoquait la dimension fratelle, de très belles rencontres. C'est spontanément des personnes, souvent catholiques, mais pas que, ou éloignées, interpellent. Et on a eu vraiment des très beaux échanges. Donc, c'est un moment. Pour autant, donc cette statue a été faite et mise dans le bureau pour un premier point essentiel, qui est de placer l'entreprise sous la protection d'un saint. Donc, c'est quelque chose qui est
ça, pas... C'est important, ce terme de protection. Pour vous, Saint-Joseph, c'est le protecteur.
Tout à fait. Donc, c'est important de pouvoir placer une entreprise, un projet d'entreprise, quel qu'elle soit, sous la protection d'un saint. Alors, ça engage à la fois la personne en responsabilité, chef d'entreprise qui fait cette démarche, et ça engage aussi le saint concerné. Donc nul doute que Saint-Joseph protège l'entreprise, d'une part.
Et surtout en ce moment, la conjoncture économique n'est pas très bonne, on peut le dire.
Exactement.
Même si vous venez de créer une deuxième usine, je crois. Donc vous, ça marche plutôt bien.
Une deuxième usine qui est en cours de construction, mais c'est un combat
peut-être que c'est
quotidien.
La protection de Saint-Joseph, d'ailleurs.
C'est vraiment, en tout cas, on se confie vraiment à cette intercession. Et qui de mieux pour protéger protéger que Saint-Joseph, parce qu'il est le saint patron protecteur de l'Église universelle, d'une part. Il est protecteur de la famille de Nazareth. Et puis, très concrètement, n'oublions pas que Saint-Joseph était le protecteur de son enfant et le roi voulait tuer son enfant. Enfin, on ne parle pas d'une protection, on parle de quelque chose de très dur, de très sérieux.
De vie
et
de mort.
Et il y a cette protection qui est vraiment importante.
Véronique Jacquet.
Mais pourquoi est-il le patron des travailleurs? Pour quelle vertu?
Alors,
en ce qui concerne le travail.
Bien sûr. Alors, je reviens à la statue qu'une fois, je trouve très belle. Vous avez l'enfant Jésus qui contemple son papa travailler. Donc, l'enfant Jésus a certainement joué dans son atelier et à un moment donné, et très vite, a dû contempler, regarder son papa. Il l'a appris. Le Seigneur a appris à travailler. Il a appris un métier. Et c'est quelque chose de très beau, de très profond, puisque Saint-Joseph a travaillé avec Dieu. Saint-Joseph a formé Dieu, on va dire, au travail. Et ça va assez loin, puisque c'est Saint-Jean-Paul II qui le disait, et le Saint-Père, et Pape François l'a repris récemment, le travail participe même à l'œuvre du salut. C'est-à-dire que le travail est vraiment une bonne chose. Certes, et Saint-Thomas d'Aquin le disait, c'est un bien ardu, bonum ardum.
C'est une notion un peu dégradée aujourd'hui, le travail, il est plutôt dévalorisé.
Exactement. Et ce qui est, alors en profondeur, donc le travail est une bonne chose, c'est... Saint Jean-Paul II le rappelle, il y a comme vous l'évoquiez, Véronique, cette ardeur au travail. C'est le terme qui est repris, le travail comme valeur et l'ardeur au travail qui permet justement d'avoir un processus, de participer à l'œuvre du salut. Donc c'est très profond et le travail, oui, est une bonne chose. Dans une heure du temps, effectivement, il y a des bonnes choses aussi, un équilibre pro-perso, mais rappelons que le travail est vraiment un bien ardu, mais un bien.
Alors, je vous propose maintenant que nous allions à Saint-Ouen, puisque dans cette commune de la région parisienne, une grande fresque de Saint-Joseph, consacrée à Saint-Joseph, a été peinte récemment. Elle mesure 60 mètres carrés au total, 20 mètres de long sur 3 de haut. Et regardez, c'est une manière aussi d'assurer une présence chrétienne en banlieue. Regardez cette fresque missionnaire et ce reportage signé Éloi Rochebrune.
Dans cette avenue de Saint-Ouen, difficile d'imaginer que se cache une gigantesque fresque de Saint-Joseph. Elle a été inaugurée en janvier dans ce hall d'immeuble. Le projet est né en 2019. Clément, le propriétaire, venait d'acquérir ce bien.
Il se trouve que, vraiment de manière complètement providentielle, la signature s'est faite le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Et là, moi, j'y ai vu un signe très fort de Saint-Joseph qui m'apportait son soutien et me faisait un signe concret.
Un signe concret qu'il veut partager au quartier. Cette œuvre de 60 mètres carrés doit devenir un instrument missionnaire, un objectif partagé par Saïd Oujibou, pasteur évangélique.
Souvent, nous rencontrons dans des quartiers, parfois des choses qui sont véritablement néfastes, qui sont horribles. Cette fresque, pour moi, elle illumine en tout cas le hall de cet immeuble. Elle donne de la clarté, de la beauté. Et pour moi, c'est hyper important parce que pour les habitants, c'est rafraîchissant et c'est énergisant aujourd'hui d'avoir de très belles couleurs. Et puis qui donne aussi un aspect du divin.
Chaque partie représente un épisode de la vie de Saint-Joseph. Violaine Vaganet, artiste peintre, s'est inspirée de la tradition byzantine. 4 ans de travail pour une fresque de 20 mètres de long et 3 mètres de haut.
Elle est divisée en deux parties. Il y a le passage de chaque vie de chacun qui passe de la naissance à la vie éternelle. Et puis il y a le deuxième mur qui parle du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament.
La fresque missionnaire a déjà accueilli un pèlerinage. Des portes ouvertes seront organisées le 1er mai.
Voilà, et puis bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Ça m'amène aussi à vous demander, pour les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que finalement la figure de Saint-Joseph, figure de sagesse, peut nous inspirer en termes de pour affronter les épreuves qui ne manquent pas aujourd'hui dans la société, que ce soit au travail, que ce soit sur les questions de fin de vie ou dans l'Église. Quelles sont les vertus de Saint-Joseph, disons le mot. Et notamment, frère Élie, est-ce que c'est notamment celle de revenir un peu aux sources de l'Église, de cette sainte famille de Nazareth qui a ensuite donné naissance à l'Église?
Si vous me permettez, j'aimerais juste faire une petite citation du pape Benoît XVI, à l'époque le cardinal Joseph Ratzinger, dans un ouvrage qui s'appelait « Le Ressuscité », qui date des 1986, je crois. Il disait ceci: « L'Église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. C'est toujours en revenant à ce point de départ que l'Église doit se régénérer.
Voilà. Donc les racines de l'Église, elles sont là, et vénérer la figure de Saint-Joseph, c'est une manière de s'y replonger.
De s'y replonger. En fait, la Sainte Famille, c'est la proto-Église. C'est la première communauté rassemblée autour du Christ qui a existé, et elle préfigure déjà l'Église. C'est l'Assemblée du Seigneur, la Kal Yahvé, c'est l'Assemblée du Seigneur, c'est ceux qui sont convoqués par la parole de Dieu, le Verbe, la parole qui convoque autour de lui Marie et Joseph. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Les vertus, c'est d'abord sa pauvreté. On disait tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, vous disiez, Joseph s'efface pour laisser la place à Dieu. J'ai beaucoup aimé votre expression, parce que c'est exactement
ça. Elle n'est pas de moi, mais...
Mais cette expression est très très belle. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. L'Église, qu'est-ce qu'elle est? Elle doit quelque part aussi, non pas vivre sa pauvreté comme du misérabilisme ou comme un fardeau, même si parfois c'est dur, évidemment, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant, mais c'est aussi le saisir comme une opportunité de laisser passer davantage la présence du Christ. Et ça, c'est vraiment la vertu de Joseph et la vertu de Marie. Dans le même état d'esprit, Marie et Joseph, parce que au fond, je ne les sépare pas, et c'est très important de ne pas les juxtaposer, mais de les articuler toujours. C'est que, en fait, Nazareth est caractérisée par la vie de l'Esprit-Saint, et elle est caractérisée notamment par la vie des Béatitudes. Le père Joseph-Marie Verlaine, dont vous avez présenté l'ouvrage tout à l'heure, le développe très bien. En fait, Nazareth, c'est le modèle d'une vie chrétienne, c'est-à-dire centré du Christ, réussi, qui vit de la vie des béatitudes.
Adrien Seret, vous, comment est-ce que ça vous inspire dans votre métier? Et puis peut-être cette discrétion de Saint-Joseph, mais cette présence aussi dans les soins palliatifs au moment de la mort. Il y a besoin d'une présence chrétienne, pour dire les mots?
Oui. Moi, quand je pense à la figure de Saint-Joseph, à la symbolique qu'il représente, j'ai deux mots qui me viennent en tête, deux vertus, deux valeurs, c'est le silence, comme on en a parlé, et puis surtout la vertu d'humilité. Et c'est cette humilité que j'essaye d'inscrire dans mon quotidien, au chevet des patients, pour cette vertu d'humilité qui annonce aussi cette capacité à l'abandon, au lâcher prise.
Et à la confiance, donc.
Et à la confiance, exactement. L'abandon total dans les bras du soignant, de l'accompagnant. Et on voit bien que, moi, au quotidien, quand je m'applique à cette vertu, ça me permet de me mettre au rythme de la personne qui, elle-même, est déjà dans une...
Vous n'êtes pas le médecin sachant qui dicte la conduite
voilà,
au patient.
On ne prend pas le patient par le haut, mais on s'abaisse et on essaie de le rejoindre dans son rythme qui lui est propre pour essayer de cheminer avec lui
jusqu'à
la fin, sans hâter le processus naturel, ce serait l'euthanasie, et sans non plus chercher à l'étirer à tout prix.
Ce serait l'acharnement thérapeutique.
C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique.
Le dernier mot, Timothée Bélanger, c'est le courage, Saint-Joseph aussi, le courage d'avoir une statue de Saint-Joseph dans son entreprise.
Oui, indéniablement, une vertu, c'est le courage dans l'ardeur au travail, le courage dans les événements difficiles, on l'a connu, et le courage dans, malgré les doutes, de pouvoir toujours avoir confiance en Dieu.
Ce sera le dernier mot. Merci à tous d'avoir éclairé cette belle figure qui éclaire aussi notre actualité. Une dernière annonce pour terminer. La messe de Saint-Joseph, sera diffusée sur l'antenne de C8 le 19 mars à 8h depuis l'église Saint-André de l'Europe à Paris. Et puis, Véronique, un conseil de lecture France catholique.
Oui, la lecture de France catholique qui cette semaine fait sa une sur la vérité, une méditation sur la vérité face à l'erreur, face parfois à un certain flou peut-être doctrinal dans l'Église ou un certain relativisme, hein, c'est très à la mode. Je suis la voie, la vérité et la vie, dit le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, France catholique sur abonnement et france-catholique.fr.
Merci, merci encore. Je rappelle aussi, frère Élie, le titre de l'ouvrage de votre fondateur, le père Verlaine, Joseph de Nazareth, aux éditions Artege, et puis La marche de Saint-Joseph, Timothée Bélanger, c'est le 22 mars à Lisieux pour ceux qui souhaiteraient y aller. Merci à Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous entrerons justement dans la grande semaine sainte qui mène à Pâques et nous vous expliquerons ce qu'est cette semaine sainte et avec ses différentes étapes. Merci d'avoir suivi cette émission et bien sûr, vous restez à notre écoute.